Vous êtes avec SBS French.
Votre communauté, vos conversations. SBS French.
Aujourd'hui, on va parler d'endométriose et notamment d'endométriose et d'alimentation. On va se poser la question de quelles sont les connexions. Et pour en parler, nous sommes en ligne avec Marie-Caroline Barrault, diététicienne, nutritionniste et formatrice spécialisée dans l'accompagnement des patientes atteintes d'endométriose, mais aussi d'autres pathologies liées à la santé féminine, comme le syndrome des ovaires polykystiques, par exemple. Marie-Caroline, bonjour.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. On parle particulièrement maintenant puisque vous venez de publier un ouvrage qui s'appelle Endométriose et nutrition, comprendre, adapter, mieux vivre aux éditions InPress en partenariat avec Endo France. L'endométriose, c'est un sujet qui nous touche beaucoup, toutes et aussi particulièrement l'équipe d'SBS French puisqu'on a un podcast dédié à l'endométriose qui s'appelle Happy Endo. Et d'ailleurs, je voudrais dire à nos auditeurs qu'un huitième et dernier épisode va sortir prochainement. Marie-Caroline, votre ouvrage est né d'un constat que les patientes qui souffraient d'endométriose eh bien, étaient les premières à avoir plein de questions concernant l'alimentation.
Oui, tout à fait. En fait, je me suis rendu compte surtout en consultation il y a quelques années, lorsque j'ai reçu mes premières patientes atteintes d'endométriose, qu'elles étaient complètement perdues et qu'elles souffraient souvent de carences nutritionnelles que je calculais dans l'assiette. Hein, des prises alimentaires montraient des carences nutritionnelles et des troubles de conduite alimentaire. Pourquoi? Parce qu'en fait, elles essayaient d'être soulagées d'une façon ou d'une autre, on ne peut pas les critiquer. Elles essayaient d'être mieux et en fait, elles supprimaient quantité d'aliments, de groupes d'aliments. Et donc, en fait, on se retrouvait avec des carences nutritionnelles et des troubles de conduite alimentaire, avec la peur générée par certains aliments, accentuée aussi par des messages souvent contradictoires sur les réseaux sociaux, par des influenceurs ou autres, des messages contradictoires et surtout qui ne sont non fondés, hein, non fondés sur des preuves scientifiques. Et donc en fait, c'est ce qui m'a amené à m'intéresser en fait à cette pathologie, à ces patientes et à effectuer des recherches et à essayer de guider au mieux mes patientes sur ben, une alimentation protectrice, mais tout en faisant passer le message qu'il n'y a pas d'alimentation, on va dire, anti-endométriose. Il n'y a pas d'alimentation qui soigne l'endométriose. Donc voilà.
Ça serait magnifique.
Ce qu'on dit aujourd'hui vaut pour aujourd'hui. Hein. Les recherches sont en cours et peut-être que nous aurons des pistes au niveau alimentaire, mais tout ce qu'on dit aujourd'hui vaut pour aujourd'hui en 2025.
On ne peut pas vraiment faire de liste de quels sont les aliments pour, quels sont les aliments contre, mais vous allez nous guider sur quelle assiette type peut faire du bien. Mais avant ça, je voudrais qu'on coupe court tout de suite à une fausse croyance. Il n'y a pas de recette miracle et dans ce livre, vous ne donnez pas de solution clé en main.
Tout à fait, parce qu'en fait, les patientes sont différentes. J'essaie de bien, comment dire, expliquer aux diététiciens, il y a finalement deux groupes de patientes atteintes d'endométriose que l'on reçoit en consultation, celles qui ont de l'endométriose sans trouble digestif et celles qui ont de l'endométriose avec des troubles digestifs.
J'allais justement vous le
Voilà.
demander, est-ce que toutes les femmes qui ont de l'endométriose ont des troubles digestifs? Donc la
Non,
réponse est non.
non. Non, voilà. Alors une grande partie souffre de troubles digestifs. Alors est-ce que ces troubles digestifs sont liés à des lésions d'endométriose au niveau du tube digestif ou à des adhérences, point, grand point d'interrogation, ou bien est-ce que c'est ce qu'on appelle le syndrome de l'intestin irritable qui est associé à cette endométriose, point d'interrogation. Donc en fait, si la patiente vient en consultation, adressée par son gynécologue, que le syndrome de l'intestin irritable le diagnostic a été posé, c'est plus simple effectivement pour nous diététiciennes. Et je reviens sur ces patientes qui ont de l'endométriose sans trouble digestif. Alors quelle est l'alimentation qu'on peut recommander? Alors vous savez, on entend un petit peu tout et n'importe quoi. J'essaie de lutter contre cette alimentation qu'on dit anti-inflammatoire. Je vais vous expliquer pourquoi. C'est pas faux de parler d'alimentation anti-inflammatoire quand on parle de certains modèles, notamment le modèle méditerranéen, qui est le modèle qui a été le régime qui a été le plus scientifiquement étudié et qui montre en fait vraiment des bénéfices au niveau des paramètres inflammatoires. Mais cette alimentation anti-inflammatoire, en fait, elle ne veut plus rien dire. C'est-à-dire qu'en fait, tout le monde s'en est saisi en perdant finalement l'origine. Et donc, en fait, on entend dans l'alimentation anti-inflammatoire, eh bien, sur les réseaux sociaux, on entend, on enlève le gluten, on enlève les produits laitiers, on enlève un petit peu tout, et on ne sait plus, finalement, les patients ne savent plus. Et puis, il y a aussi autre chose, c'est que dans ce terme alimentation anti-inflammatoire, les mots sont mal associés. C'est-à-dire qu'en fait, derrière, on pense alimentation, une bonne alimentation, une mauvaise alimentation. Ça perd complètement nos patientes. Alors que si vous parlez du modèle méditerranéen, on pourrait parler aussi d'autres modèles qui ont été étudiés, qui sont assez intéressants au niveau japonais, au niveau... Il y a des régimes comme ça qui ont montré des bénéfices pour la santé. Et puis, il y a le grand gloubi-boulga où on met un petit peu tout et n'importe quoi. Et donc, en fait, le modèle méditerranéen, c'est une alimentation qui est détendue, c'est une alimentation qui est conviviale, avec beaucoup de fruits, beaucoup de légumes, des produits céréaliers complets, les produits laitiers sous format fermenté. Peu de viande, plutôt les protéines consommées sous format produits de la pêche, hein, les poissons, les produits de la mer, et puis les légumineuses. Et puis enfin, ben, la viande rouge, un peu, très peu, les produits sucrés, les produits transformés, très peu, très 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 peu, voire pas du tout de produits transformés. Une bonne hydratation. Et puis, l'huile d'olive, qui est assez intéressante hein, pour quantité de raisons. Et puis, il y a les fruits à coque, il y a l'ail, il y a l'oignon. C'est un régime qui est riche en fibres, qui est riche en antioxydants, qui est riche en, j'en ai pas parlé, en polyphénol. On est sur une alimentation qui est détendue. Et vous avez effectivement des bénéfices au niveau des paramètres inflammatoires. Donc ça, c'est un modèle méditerranéen que finalement... Pourquoi s'en passer en fait? Et on peut l'adapter évidemment chez nos patients qui ont des troubles digestifs. La particularité de ce modèle méditerranéen, c'est qu'il est un peu riche en fibres. Donc il est très bon pour les patients qui n'ont pas de troubles digestifs. Et celles qui ont des troubles digestifs, bah ça va être un petit peu compliqué. Donc il faut l'adapter.
Et tout à l'heure, vous avez parlé justement du gluten, des produits laitiers. Vous l'avez pas dit, mais on peut même étendre au chocolat, au café. C'est des mots qui font peur quand on a mal au ventre régulièrement, qui plus est quand on souffre d'endométriose. Faut pas forcément les arrêter, c'est ce que vous nous expliquez.
Alors, on va prendre l'exemple du gluten. Le gluten, c'est la partie protéique du blé, hein, c'est gliadine, gluténine qui s'assemblent pour former le gluten. Mais dans le blé, vous avez aussi des fructanes. Et les fructanes, eh bien, c'est un des FODMAP, ce sont des sucres qui vont, chez certains patients, chez certaines patientes, entraîner des troubles digestifs. Et dans le blé, que les patientes suppriment à tort, mais vraiment, je ne leur lance pas la pierre parce qu'elles essaient d'être mieux. Supprime le gluten, mais en fait, ce n'est pas le gluten qui pose problème, ce sont les fructanes. Et les fructanes, eh bien, c'est un des FODMAPs. Et là, c'est une autre piste. Quand nous avons des patientes qui souffrent de troubles digestifs, eh bien, nous avons le protocole FODMAPs. Alors, ce n'est pas un régime qui n'est pas à suivre au long terme, c'est un protocole.
Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu plus ce que c'est FODMAP, s'il vous plaît?
Alors, FODMAP, c'est un acronyme qui signifie Fermentable Oligo Dimonosaccharide Polyol. Donc, c'est un grand groupe de sucres. Mais alors, on en retrouve, vous voyez, par exemple, le lactose dans le lait, c'est un des FODMAPs. Les fructanes, vous avez le sorbitol, vous avez des quantités, en fait, de sucre que l'on va retrouver dans l'alimentation, mais qu'on va retrouver, vous voyez, on parlait des fructanes. Le fructane dans le blé, OK? Mais les fructanes, on va aussi les retrouver dans l'ail, dans l'oignon, dans le poireau, etc. Donc, en fait, ce sont des sucres qui ne sont pas mauvais pour la santé, mais qui, chez certains patients, peuvent entraîner des troubles pour différentes raisons. Et donc, vous avez un protocole FODMAPS qui permet de diminuer fortement ces FODMAPS de façon à observer si il y a une amélioration des troubles, mais avec réintroduction ensuite. On ne peut pas suivre un protocole FODMAPS à vie, c'est un protocole à risque de carence nutritionnelle. Donc, il nécessite une réintroduction. Et ça, les diététiciens qui sont formés au FODMAPS, il faut s'adresser à un diététicien formé, eh bien, peuvent chercher la piste FODMAP. Et vous voyez ici, ce n'est pas le gluten dans le blé qui pose problème, c'est les fructanes. Et donc, supprimer le gluten, c'est le risque, en fait, c'est qu'on se retrouve avec des patientes qui vont, en supprimant le gluten, supprimer tout un groupe d'aliments, et puis consommer des produits qui vont être transformés, c'est-à-dire qu'on va acheter des produits sans gluten transformés avec les risques que cela engendre derrière.
Et l'alcool?
Il n'y a pas d'études qui montrent qu'il faut supprimer l'alcool dans l'endométriose. Mais... Bah, c'est avec grande, grande, grande modération, puis on attend les scientifiques par rapport à l'alcool, bien entendu. Pareil pour la caféine, j'avais lu une étude assez récente qui montre que jusqu'à 300 mg de caféine, ça ne pose pas de problème non plus.
Mais ce qui est très difficile dans cette maladie, c'est que ce que vous nous dites depuis le début, on pourrait très bien ne pas être en train de parler de l'endométriose, en fait. C'est plus une assiette de bon sens. Mais tant il y a autant d'endométriose que de femmes, Eh bien, il y a autant de bonnes assiettes adaptées à chacune des patientes également. On va pas toutes réagir de la même façon à notre alimentation.
C'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, il faut dédramatiser un petit peu l'assiette, arrêter avec ces discours, du moins ces injonctions que l'on peut donner à nos patientes, leur dire voilà, alimentation détendue, variée et équilibrée. Et puis derrière, si vous avez des troubles digestifs, d'abord avis médical, et puis ensuite, l'approche diététique peut être très intéressante pour chercher effectivement. Vous savez, c'est ce que je dis dans le livre notamment, ne serait-ce que la mastication, est-ce que vous prenez le temps de mâcher, hein, la digestion commence dans la bouche avec les enzymes au niveau de la salive, est-ce que votre alimentation est équilibrée, est-ce que vous prenez le temps à table, est-ce que vous restez, voilà, au moins 20 minutes à table. Il y a plein de choses à travailler. Et puis derrière, si les premières mesures ne suffisent pas, eh bien on va regarder au niveau, par exemple, des FODMAPs. Est-ce qu'il y a un ou des FODMAPs que vous ne tolérez pas, par exemple. Et on va regarder quelle dose vous allez pouvoir tolérer. On va diminuer et puis on va réintroduire. Donc voilà. Et puis alors, il y a d'autres pistes, bien entendu. Il n'y a pas que le protocole FODMAP, mais c'est celui qui est cité dans le cadre de l'endométriose.
Et alors justement, est-ce qu'il y a d'autres pistes à explorer pour soulager les maux de ventre?
En France, nous avons un parcours de soins maintenant pour les patientes où les médecins appellent ça les soins de support. Donc effectivement, il y a la diététique, il y a la kinésithérapie, et puis il y a tout ce qui est activité physique, le sommeil, le stress. L'ensemble, en fait, est important. L'ensemble, finalement, autour de cette patiente qui souffre d'endométriose, l'ensemble des soins est important pour justement l'aider à mieux vivre cette maladie.
Avant de clore cette interview, je voudrais préciser donc votre livre Endométriose, nutrition, comprendre, adapter et mieux vivre. Ça fait partie des livres que toutes les personnes atteintes d'endométriose devraient avoir sur leur table des nuits. Je rappelle qu'on est presque 200 millions dans le monde à souffrir de cette maladie. Vous prenez pas de droit d'auteur sur le livre. En tout cas, enfin, tous vos droits d'auteur sont reversés à l'association EndoFrance qui lutte au
Oui,
quotidien.
j'ai décidé de reverser mes droits d'auteur parce que c'est une association, les associations de patientes sont très importantes. Finalement, elles ont été quand même vraiment moteurs dans toute cette recherche autour de l'endométriose. C'est elles qui ont alerté, c'est elles qui ont, en coordination avec le milieu médical, qui ont vraiment fait monter ce sujet qui est très très important puisque ça concerne une femme sur 10, bien entendu.
Marie-Caroline Barrault, merci beaucoup.
Merci pour votre accueil.
Vous écoutez le français sur Radio SPS.
Vous voulez entendre d'autres rubriques comme celle-ci? Écoutez-les sur Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify ou n'importe où vous obtenez vos podcasts.